Isabelle Fontaine, bonjour.
Bonjour Steve.
On va parler ce matin du centre mère-enfant, tout d'abord.
Ben oui, cette nouvelle que vous avez sortie ce matin, que Janie a annoncée ce matin concernant le possible dépassement de coûts dans le centre mère-enfant. Il faut faire une petite chronologie. Là. C'est un projet qui existe depuis si longtemps, une idée qui est née en 2002, qui a été annoncée en grande pompe en 2008 par Jean Charest. Quand Régent Hébert est arrivé à la santé en 2012, surprise, le projet d'investissement du centre mère-enfant à Fleurimont n'était pas au plan québécois des infrastructures. Là. Le plan québécois des infrastructures, c'est un plan du Conseil du Trésor qui détaille tous les investissements que prévoit faire le gouvernement sur un horizon d'à peu près 10 ans. Donc, quand il arrive là, le centre mère-enfant n'est pas là-dedans. C'est un problème. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement prévu dans le cadre financier du gouvernement. Régent Hébert, comme ministre de la Santé, le fait ajouter, réannonce à nouveau le centre mère-enfant en 2013 pour qu'il soit construit en 2017. Et là, on est à l'automne 2018. Il y a des travaux qui se font autour du CHU, mais pas encore rien de concret. On est allé en appel d'offres et on prévoit qu'un projet de 198 millions coûtera probablement le plus cher. Mais c'est pas nécessairement surprenant. T'sais.
Le temps a passé. Première des affaires, moi, je me suis dit, là, tu sais, dans la longueur gouvernementale, puis ça doit arriver quand même assez fréquemment, des fois, du début à la fin du projet, c'est passé quelques années. Mais ça change, ça, les années, là?
Ça change les années. La situation économique change. Puis, tu sais, c'est il y a un enjeu de prévision, de développement des projets, mais dans la situation actuelle, il n'y a pas que ça. Tu sais, aujourd'hui, là, l'économie, elle roule à plein régime.
Ouais.
On a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a un très grand nombre de projets d'infrastructure puis de construction qui se réalisent au privé comme au public. T'sais, on le voit, t'sais, nos rues, on a des comptes partout. Il y a beaucoup, beaucoup d'investissements qui se font. Mais ça crée une certaine bouillonnement dans l'industrie de la construction et des prix à la hausse. Donc, des promoteurs, quand ils vont venir pour déposer des offres pour contribuer à ce projet-là de centre mère-enfant, ben, il va falloir qu'ils mettent d'autres projets de côté. Il va falloir peut-être qu'ils mettent des employés supplémentaires ou encore des employés en temps supplémentaire. C'est toutes des dépenses de plus dont ils doivent tenir compte.
Mais ton point est excellent. Ils ont le choix. Donc, tu dis, écoute, je vais te le faire, ton centre mère-enfant. Ça va coûter tant de plus.
Oui, parce que c'est un coup d'opportunité, parce que c'est d'autres projets sur lesquels je contribue pas.
C'est logique. Hein?
Puis le secteur public fait face à ça. Tu sais, à Laval, récemment, ils ont carrément reporté des investissements et des projets qu'ils étaient prêts à construire maintenant. Pourquoi? Parce que les offres qu'ils avaient reçues étaient beaucoup plus élevées que les sommes qu'ils avaient prévues mettre dans ces projets-là. Il n'y a personne dans le secteur public ou dans le secteur privé qui est à l'abri de ça. On est dans une situation économique très, très bonne, puis ben ça affecte les coûts des projets.
Ce qui m'inquiète aussi, quand on pense, entre autres, au centre-ville à Sherbrooke, t'sais, on avait le centre de diffusion jeunesse, il n'est pas construit. Le jour où tu le construis, là, veux pas, les coûts vont peut-être avoir changé, puis c'est comme ça pour un paquet d'infrastructures.
Même chose pour Welling, tu sais, le contexte est un peu difficile. On va recevoir des soumissions, enfin, on l'espère, mais quels seront le montant de ces
soumissions-là?
Exactement.
Parce que je suis pas convaincu qu'on a encore, là, mais en tout cas, ça c'est moi, on le saura en janvier, parce qu'en attendant, ben on avait repoussé la date pour ramasser les soumissions pour le projet Well-Sud. Maintenant, on l'appelle ça Well-Sud.
Ah bon, excusez-moi.
Non, mais c'était Welling, là, mais évidemment, avec une nouvelle mouture de gouvernance, avec un nouveau maire, on a changé le nom un petit peu pour rendre ça plus populaire, peut-être. Également, dans l'actualité, ce matin, Amanda Simard, qui se retrouve vraiment une du Journal de Montréal, c'est cette franco-ontarienne députée qui a décidé de claquer la porte du parti progressiste conservateur de Doug Ford.
Oui, Amanda Simard, une députée qui vient d'être propulsée sur la scène nationale au Canada, une femme de 29 ans, élue sous la bannière des conservateurs le printemps dernier, dans une circonscription, Glengarry Prescott Russell, qui est une circonscription qui était libérale depuis les années 80, puis qui est à peu près 60-70% francophone. Donc, évidemment, pour elle, la question de la langue française en Ontario est vraiment primordiale. Puis, tu sais, la décision de son gouvernement la plaçait vraiment dans une situation difficile, une situation dans laquelle les députés se retrouvent souvent. Tu sais, la fameuse ligne de parti. C'est toujours dans un dilemme où tu réfléchis comme député, dans quelle position tu es le mieux pour défendre les intérêts de tes citoyens? Est-ce que c'est à l'intérieur de ton parti, mais derrière les portes closes, dans les rencontres de caucus, mais alors c'est plus difficile d'exprimer sur la place publique que tu as bien défendu tes citoyens parce que ça se passe en privé, ou encore sur la place publique comme elle le fait maintenant, mais en rompant les rangs, en rompant la ligne de parti et en perdant pour l'avenir cette influence à l'intérieur de ton parti? Donc, Donc, elle, c'est la situation dans laquelle elle s'est retrouvée.
Est-ce que j'ai raison, Isabelle, ou c'est du cas par cas? Tu sais, dans certains dossiers, tu vas avoir avantage à demeurer à l'intérieur du rang. Elle, honnêtement, pour elle, elle vient de faire toute une avancée dans sa carrière, mais je pense aussi pour la cause. Honnêtement, je pense que pour la cause, elle vient de faire un pas par en avant.
Je pense que, tu sais, puis chaque politicien, moi, je pense, doit réfléchir à, quand il s'engage en politique, quelles sont les choses qui lui tiennent absolument à cœur et sur lesquelles il ne fera jamais de concession. Et ces choses-là sont souvent dans un très petit nombre, là, 2 ou 3. Dans son cas, évidemment, la situation des Franco-Ontariens semble en être une. Elle a pris le courage politique de sortir de son parti. Puis tu dis que c'est une avancée pour sa carrière. Hey, moi, c'est pas si évident que ça, parce que, dans le fond, là, elle se retrouve dans une situation où elle va siéger comme indépendante. Mm-hmm. C'est extrêmement difficile de siéger comme indépendante.
Tu tombes un peu dans l'ombre, sauf si c'est toujours toi la mascotte quand on parle du dossier francophone.
Oui, mais le dossier francophone durera-t-il jusqu'aux prochaines élections? Mm-hmm. Elle se met en danger d'une certaine façon parce que là, elle n'est pas... Nous, on la voit, je pense qu'on salue son geste, mais en même temps, comment est-ce qu'elle peut rester devant puis toujours convaincre ses citoyens qu'elle défend leurs intérêts pour la suite? Elle va être... courtisée par les libéraux, par le NPD aussi. Puis moi, si j'étais sa conseillère, là, je donnerais en fait 4 conseils. Le premier, c'est d'abord de prendre son temps. Il n'y a pas de presse. Maintenant, on comprend que cette femme-là a comme conviction la langue française en Ontario. On voudrait connaître ses autres dossiers. Donc, mm-hmm. peut-être d'ajouter 2 ou 3 autres priorités à celle de la francophonie ontarienne sur laquelle elle voudrait se coller et qui correspondent à ceux de ses citoyens. Ça, c'est mon 2e conseil. Mon 3e conseil, se rapprocher des gens dans sa circonscription. Développer une étroite relation avec ses maires, avec les groupes importants, avec
la société civile. Pour assurer sa réélection, si c'est ce qu'elle souhaite.
Exactement, puis pour les représenter au mieux. Et finalement, prendre son temps. Et sur la base des deux ou trois priorités qu'elle se sera fixées, peut-être quelques mois avant la prochaine élection, décider de revenir au Parti conservateur ou de joindre un autre parti sur la base des convictions qu'elle va avoir choisi de défendre et de représenter et en faisant une espèce d'échange. T'sais, moi, c'est ce que je représente et c'est ce que je ramène à une nouvelle formation. Et je pense que comme ça, elle pourrait... se démarquer et effectivement lancer sa carrière, mais c'est...
Isabelle Fontaine, c'est toi la spécialiste, là. Moi, je te pose la question. moi, personnellement, j'aurais envie de lui dire, saute donc au fédéral. Tu sais, l'élan est là, vas-y donc pour le fédéral. Le ferais-tu? Lui conseillerais-tu ça?
Bien, en fait, tout dépend de ce qui l'anime vraiment à l'intérieur. Moi, la première question que je lui poserais, c'est quelles sont les 2 ou 3 choses que tu veux représenter, que tu veux porter, mm-hmm. qu'il te semble absolument... sur lesquelles il te semble absolument impossible de faire des concessions. Et sur cette base-là, bien, peut-être qu'aller chez les libéraux ou chez les conservateurs au fédéral, ça pourrait être possible.
Imagine l'atout qu'elle serait. Honnêtement, c'est une belle carte de visite, là, que ce soit pour le Parti conservateur ou le Parti libéral, Justin Trudeau, je pense, l'ouvrirait les bras sans problème.
C'est sûr
là.
Et certain que pour les partis eux-mêmes, là, ils vont toutes la vouloir.
Ben oui.
C'est une jeune femme. On a rencontré une jeune femme qui se présente bien, qui sait articuler des positions, qui a du courage, tout ça. Donc, tout le monde va la vouloir. Tout le monde va vouloir la brandir comme une bonne prise. Mais au-delà de ça, si on veut durer en politique,
ça prend beaucoup
plus que ça.
Isabelle Fontaine, merci beaucoup.
Merci.
On se reparle la semaine prochaine.